Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
La vie d'un certain nombre de personnes dont les circonstances ou la naissance ou les événements autour de leur vie avaient prédisposé à échouer. Nous sommes en train de voir comment ces personnes ont été amenées à réussir et à réussir brillamment. Tout cela pour dire que Dieu a un plan, un projet pour ta vie, pour que tu ne puisses pas croire que ce que les circonstances présentes maintenant doivent te condamner forcément à échouer. Nous avons vu le cas de Moïse. Comment, à sa naissance, une loi inique était promulguée, la loi qui condamnait à mort tous les mâles qui devaient naître en ce moment-là. Et nous avons vu de quelle manière les parents de Moïse ont tenu bon. Ils ont eu confiance en Dieu. Et Moïse n'a pas été tué. Et Moïse a eu la grâce qu'aucun autre n'a connue parmi le peuple d'Israël. Il a été élevé dans la maison même de Pharaon. Il n'a pas connu la servitude. Et plus tard, Dieu appellera ce Moïse pour être le libérateur d'Israël. Non seulement il n'est pas mort, mais il est devenu, si vous voulez, le chef d'État de ce nouveau pays-là. Gloire au Seigneur. Donc, la foi des parents de Moïse, et notamment de sa mère, a vaincu la puissance de la mort qui planait sur Moïse et a donné à Moïse la victoire. Nous avons parlé aussi d'Esther, qui, dans sa tendre jeunesse, a connu le malheur de perdre son père et sa mère. Esther est devenue orpheline. Et comme vous savez, les orphelins n'ont pas beaucoup de chances de réussite. Mais plus tard, cette jeune orpheline est devenue la reine dans ce pays de déportation, de captivité. Elle est devenue la femme la plus importante dans le pays. Donc, les circonstances, l'histoire, les événements qui ont entouré sa vie, et notamment le décès de son père et de sa mère, n'ont pas arrêté terre d'accomplir le plan de Dieu. Nous avons vu comment Mardoché, le cousin d'Esther, amené comme captif de son pays natal à Babylone, dans ce pays comme étranger, comme captif, il semblerait même que le premier métier qu'il ait exercé, c'était d'être portier. Et cet homme-là, par la grâce de Dieu, il est devenu le numéro 2 de ce royaume. Les circonstances n'ont pas arrêté l'ascension de cet homme. Nous avons commencé dimanche passé à parler de Gédéon. Gédéon, comme lui-même se décrit dans le livre des Juges au chapitre 6, il est né à une mauvaise époque, l'époque où son pays était dominé par les Madianites, l'époque de la famine, l'époque où il y avait vraiment des problèmes. Pour subsister, fallait se cacher, pour produire. Il fallait se cacher. Gédéon, il est né par malheur dans la plus petite tribu en Israël, la tribu de Manassé. Il est né dans la plus petite famille dans cette petite tribu. Et il était le dernier des parents pauvres. Et il a donné tout ça comme excuse parce que il pensait que cela le condamnerait à être le dernier. Nous sommes en train de voir la vie de Gédéon et comment Dieu a travaillé avec ce jeune homme condamné à la médiocrité à partir des circonstances de la vie pour qu'il soit le premier dans le pays. Juges chapitre 6, verset 25 à 35. Livre de Juges, chapitre 6, verset 25 à 35. Si vous avez trouvé, nous allons ensemble à haute voix lire ce texte. Nous lisons, « Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a abattu le pieu sacré qui est au-dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, « Et c'est à vous de prendre parti pour Baal, et c'est à vous de venir à son secours. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek, et les fils de l'Orient se rassemblèrent, et ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette, et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Amen. Gédéon. Nous avons vu dimanche passé les circonstances de sa rencontre avec l'ange de l'Éternel. Il était caché. Et au pressoir, il préparait le froment pour la nourriture de sa famille quand l'ange de l'Éternel lui est apparu et a parlé avec lui. La chose que j'aimerais qu'on note, c'est que ce jour-là, il n'y a pas eu de mission, il n'y a pas eu de mandat de Dieu, il y avait tout simplement un entretien, l'entretien entre l'ange et Gédéon. C'est ce que nous avons lu du verset 11 jusqu'au verset 24. C'était comme une sorte d'interview. Avant embauche. Comme vous voyez, vous savez bien, dans notre monde actuel, vous pouvez avoir des diplômes, vous pouvez présenter un bon curriculum vitae, mais l'employeur souhaite toujours avoir un tête-à-tête avec vous pour savoir exactement ce que vous représentez verbalement. pour savoir si votre diplôme vaut quelque chose, votre CV est vrai ou non, pour savoir comment vos paroles sont et quelle est votre motivation. Il paraîtrait que, à cette époque où il y avait réellement une absence des vrais dirigeants en Israël, Dieu était à la recherche d'une personne. Et les critères de Dieu, comme vous le savez bien, ne sont pas comme les critères des hommes. Donc, ce premier entretien, Dieu a observé un jeune homme issu d'un milieu défavorisé, c'est-à-dire d'une famille pauvre, qui est courageux. Pendant que tout le monde a peur, lui, il est en train de préparer à manger pour la famille. Je pense que ce courage et ce sens de risque étaient la première motivation de Dieu pour s'intéresser à Gédéon. Et dans l'interview, il s'est avéré quand même que Gédéon n'avait pas beaucoup de foi, mais que c'était un homme sincère dans ce qu'il proclamait. Ah, mon Seigneur, si Dieu était avec nous, pourquoi ce qui nous est arrivé nous est-il arrivé? Ah, mon Seigneur, vous me dites que je suis un vaillant héros, mais voilà où je suis caché. Qu'est-ce que je fais là, moi? Je ne vaux rien. En fait, Gédéon était très sincère dans ce qu'il disait devant Dieu. Vous savez, frère, je préfère un athée qui ne veut pas de Dieu, qui n'a rien à faire avec les choses de Dieu et qui le proclame tout haut, qu'un faux chrétien qui fait semblant de prier, d'adorer, mais que quand il est devant une situation, il manifeste juste autre chose. La sincérité de Gédéon, ne crois pas. Et je pense que Dieu cherche de telles personnes. Vous savez que Dieu, dans la Bible, a cherché des gens de ce genre-là. Paul, c'était pas un chrétien. Paul, c'était un vrai juif, pharisien. Et il s'est engagé dans une lutte acharnée contre les chrétiens. Et il s'est mis à les persécuter. Il est écrit même que lorsque on a lapidé Étienne, les témoins, on dit Actes chapitre 7, ont déposé leurs habits, leurs vêtements au pied d'un nommé Saul. Parce que quand on le lapidait, il y a le sang qui devait jaillir. Donc, les lapideurs se préparaient, déposaient leurs manteaux, leurs boubous, pour bien lapider. Et c'est Saul qui a dit, je reste là, gardien de vos vêtements. Et quand il partait à Damas, il partait pas pour aller rigoler. Il partait pour arrêter les chrétiens et les amener en prison. Alors, dans sa sincérité, dans sa détermination, Dieu l'a arrêté en chemin pour dire, je veux que tu utilises la même sincérité quand tu seras à mon service. Et c'est ce que Paul a fait. Il est resté sincèrement chrétien alors cette fois-là. Et il a servi Dieu avec sincérité, comme il le faisait quand il persécutait les gens. Je parlais ce matin, je donnais témoignage d'un collègue de bureau que j'avais rencontré dans mon bureau à la Sozacom à Kinshasa. Je venais le matin. Je m'asseyais. Avant de commencer mon travail, généralement j'étais là à l'heure. J'ouvrais ma Bible sans déranger personne. Je la lisais intérieurement. Pour moi, je fermais mes yeux. Je faisais une prière avant de commencer le travail, mais tous les jours. Ça, c'était, disons, en dehors de ma méditation que je faisais à la maison avant de quitter ma maison. Alors, dans ce bureau-là, il y avait un jeune homme qui m'a observé une semaine, 3 semaines, 1 mois, il s'est rendu compte que j'avais le même rythme. Alors il se lève et il dit, monsieur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ouvrir la Bible, lire, etc. J'ai dit, je te dérange parce que je ne parlais jamais de Dieu à qui que ce soit. J'ai pour principe que Dieu, on ne doit pas toujours en parler, mais on doit le vivre pour que les gens voient si nous avons Dieu ou non. Hein, ce n'est pas en passant avec des versets bibliques sur la chemise, sur la mallette, sur la voiture, des poissons, etc., que l'on connaît chrétien. On l'est profondément. Alors je lui dis, mais est-ce que je vous dérange? Je ne dérange personne. Il dit, non, c'est parce que moi je suis athée. Je ne crois pas en ces choses-là. Je dis, mais écoutez, vous me laissez la liberté, au moins. Je le fais pour moi. Et j'ai continué ainsi. 3 mois après, la même personne qui me dit, monsieur, comment se peut-il que vous êtes égoïste, vous arrivez, vous ouvrez votre Bible et vous lisez pour vous-même, et nous, on n'a pas droit à la Bible? Vous voyez, il est très sincère. Et j'ai dit, non, il n'y a pas de problème, je vais commencer à lire à haute voix pour tout le monde. Puis, j'ai été chercher des Bibles, à la Ligue pour la lecture de la Bible, j'ai vendu, bien sûr, à tout le monde, et nous avons commencé à lire la Bible chaque matin, et à prier avant le travail. Puis un jour, il vient, il me dit, après 6 mois, il me dit, maintenant, je crois en Dieu. Parce que vous, là, qui parlez de Dieu, vous êtes des farceurs. J'ai voulu t'observer. Tu es dans le même bureau que moi, je t'ai observé 6 mois. Je crois. Amène-moi au baptême. Mais ainsi, je l'ai amené, on l'a baptisé. Il est chrétien jusqu'à ce jour. Autant il était sincère comme athée, autant il est sincère comme chrétien. Alléluia. Gédéon était sincère dans ses réponses. Il n'a pas eu des réponses des évangéliques, n'est-ce pas, qui ont le patois de Canaan. Dieu est notre forteresse, il est notre bouclier, il est notre asile, il est notre abri. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi? Alors on dit, on rappelle les choses comme ça, oui, je crois que Jésus est mort pour moi, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, tout ça. Mais c'est quoi? Il a dit à Dieu, je suis pas d'accord avec Dieu. Dieu nous a abandonnés. En d'autres termes, nous l'avons aussi abandonné. La preuve, c'est qu'on va trouver chez le père de Gédéon l'autel de Baal. Donc, il était sincère. Mais cet entretien-là s'est révélé concluant pour Dieu et pour Gédéon. Ça veut dire que Dieu a décidé donc d'utiliser Gédéon pour la vision qu'il avait. Alléluia. Encore une fois, laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu a des plans et des programmes qu'il veut réaliser. Dieu n'a pas fini de réaliser ce qu'il doit réaliser. Mais ces choses attendent, se font attendre, parce que Dieu cherche quelqu'un. Et cette personne-là, à partir du moment que Dieu le trouve, eh bien, il lance son programme. Ça sera peut-être toi que Dieu va choisir pour réaliser son programme. C'est pour dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Gédéon a dit, Dieu nous abandonne. Non, Dieu ne l'avait pas abandonné. Alors, au verset 25, il est dit, dans la même nuit, donc la nuit qui a suivi l'entretien, l'interview entre Dieu et Gédéon. Gédéon ne savait pas que c'était une interview de Dieu. Vous savez qu'il y a de ces épreuves-là, je crois que c'est hier, que dans notre cours avec les pasteurs, que nous étions en train de voir comment Dieu utilise les choses douloureuses pour notre formation. Pourquoi? Parce que dans la vie chrétienne, et même dans la vie des pasteurs, il arrive un moment que nous commençons à vivre le train-train de la vie. Nous commençons à vivre des choses monotones et nous stagnons dans la vie. Mais le but de Dieu n'est pas que nous stagnions. Il veut nous élever encore plus haut. Alors, il permettra des choses difficiles d'intervenir dans ta vie. Pas pour te détruire, mais c'est un examen. C'est un examen pour que tu montes des grades dans la vie. Alléluia. Donc, si tu passes par des choses difficiles, mais Dieu ne va pas te dire que c'est un examen pour que tu montes des grades. Il va tout simplement permettre que les choses se bousculent dans ta vie. Si Dieu avait dit à Gédéon, c'est une interview pour voir si je peux t'utiliser. Gédéon allait venir en costume. Il allait préparer, apprêter son langage. Il allait bien se coiffer et dire à tout le monde, j'ai rendez-vous avec Dieu pour une interview d'embauche. Dieu est en train de chercher un héros. Et il m'a dit que c'est moi si je réussis. Dieu ne le fait pas. Et c'est pour ça que nous devons faire très attention et rester correct pour chaque chose qui se passe dans notre vie. Parce que peut-être que c'est ça l'examen, l'interview de Dieu. La même nuit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Gédéon avait mis l'offrande sur la pierre, sur le roc, et que l'ange avait touché cette offrande, un feu est sorti, a consumé l'offrande, et l'ange a disparu dans les flammes. Il est parti. Mettez-vous à la place de Gédéon. Tout ce qu'il a fait au verset 24, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Et il existe encore aujourd'hui à Éphrat qui appartenait à la famille d'Abiézer. Donc tout ce que Gédéon a fait, c'est de bâtir un autel pour dire, oh là là, j'ai vu Dieu. Quelle belle histoire. Peut-être qu'il a écrit ça dans son agenda, dans son journal intime. Aujourd'hui, à telle heure, j'ai vu Dieu. En tout cas, l'ange de Dieu. Et il est parti. Peut-être qu'il s'est dit, oui, si je pouvais le rencontrer une deuxième fois. Vous savez, un jour, je suis allé dans un magasin. Je revenais d'un voyage, je suis allé dans un magasin, ici sur Avenue Louise, et c'était à l'époque des soldes, et il n'y avait personne. Il y avait juste les serveuses, etc. Donc, je rentre. Puis je pars là, je crois que j'avais laissé un habit avant d'aller en voyage, que je suis allé retirer. Et je finis. Pendant que je commence à m'engager pour sortir, le couloir de sortie est long. Enfin, le magasin est comme un couloir. Je croise quelqu'un. Je dis, on dirait que j'ai déjà vu cette personne. Il me sourit. Et puis il passe. Puis j'arrive à la porte, je trouve les gars. C'était le roi. Oh là, je ne peux plus retourner. Alors je suis entré dans ma voiture, j'ai fait un grand tour, je suis revenu pour me rassurer. J'ai encore ma raison. Je dis, je vois, dites-moi, c'est le roi qui était ici. Il me dit oui. Je dis, c'est pas vrai. Mais je pouvais lui dire, j'avais des choses à lui dire. Oh, un j'ai raté comme ça. J'espère que ça se répétera un jour. Oh, je suis venu, j'ai dit à ma femme, tu te rends compte? Face à face. Et les gens de la sécurité, juste dehors. C'est quand je suis sorti. Gédéon, certainement quand l'ange est parti, s'est dit, oh, mais j'avais quand même des choses à dire à Dieu. Mais il est parti. Non, il n'est pas parti. Dans la même nuit, nous dit le verset 25, Dieu revient et il parle à Gédéon. Il y en a qui pensent que c'était dans un rêve. Moi, je crois que ce n'était pas dans un rêve parce que, comme il avait vu la veille, face à face, donc Gédéon est déjà habitué à la présence divine. C'était, je crois, dans la réalité. Et c'est là que Dieu lui donne le mandat. Mais avant toute chose, élément préparatoire à ce mandat. Pourquoi? il faut préparer. Parce que Israël avait déjà sombré dans l'idolâtrie. Donc il fallait une préparation spéciale avant toute chose. Si c'était nous, nous allions dire, mais Dieu, il prend tout son temps. Il ne voit pas que les Madianites sont en train de dominer sur Israël. Pourquoi il ne prend pas Gédéon et le lancer comme une bombe sur les Madianites? Parce qu'ils sont là. Parce qu'ils dominent. Parce qu'ils exploitent. Parce qu'Israël est oppressé. Non, frères et sœurs, Dieu n'est pas pressé quand il doit faire les choses, parce qu'il doit bien faire les choses. Dieu prend le temps de bien faire ce qu'il doit faire. C'est pour cette raison, même dans notre propre vie, nous aurions souhaité que Dieu aille plus vite que ça. Malheureusement, non. Il ne va pas très vite. Parce qu'il veut que quand il pose un acte, ce soit bien posé. C'est pour ça que parfois nous devons attendre. Nous devons attendre parfois un peu plus longtemps que ce que nous aurions souhaité. En dépit de la domination, Dieu veut que Gédéon fasse des préparations. Voici la préparation que Dieu demande. Verset 25. Prends le jeune taureau de ton père. Et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Voilà ce que je note ici. Matériellement, Gédéon n'a rien. Qu'est-ce que Gédéon avait? Juste le courage, la bonne volonté et la détermination que l'ange l'avait vu pendant qu'il préparait le froment. Le taureau n'est pas à Gédéon, c'est à son père. Le second taureau, c'est aussi à son père. L'autel de Baal, c'est à son père. Comment Dieu peut utiliser des gens comme ça qui n'ont rien? Qui n'ont rien. Vous voyez, d'abord, ce qui est à ton père est à toi. C'est un principe banal. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que tu disposes matériellement. Ce que Dieu voit, c'est ce qui est immatériel en toi. Il y a des gens qui disent, j'ai pas d'argent. Comment je peux aller en mission? Je n'ai pas ceci. Et on donne toute une série d'excuses. Je n'ai pas de diplôme. Je ne suis pas ça. Mais ce que Dieu va voir, c'est ce qui est vraiment interne à toi. Ce que les mathématiciens appellent ce qui est intrinsèque à toi. La volonté, la détermination, le courage. Alors Dieu peut te dire, tu y vas. C'est comme quand Dieu a choisi Samuel. Il n'avait rien. Les brebis qu'il venait chercher n'étaient pas à lui, c'était à son père. Je pense que Dieu veut partir avec certaines personnes à partir du point zéro. Vous savez, c'est ce que je disais un jour chez nous au Congo, à Kinshasa, au palais du peuple, que nous avons besoin dans nos églises, que Dieu suscite des gens qui n'avaient rien et leur donne la richesse. Parce que ces gens-là, ils savent d'où Dieu les a tirés. Que Dieu puisse prendre des gens qui ne sont rien, qui leur donne aussi des postes de responsabilité. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un sait que ce qu'il a, il a reçu de Dieu, il aura beaucoup de respect pour Dieu. Et même pour les hommes de Dieu. Le problème, c'est que, généralement, dans nos églises, les gens viennent avec leur argent, leur titre, leur grade, et les hommes de Dieu sont obligés de venir se mettre à genoux. C'est comme si Dieu voulait se mettre à genoux aussi devant eux. C'est pour ça que je voudrais t'encourager, toi qui n'as rien aujourd'hui, que Dieu a besoin justement des hommes comme ça. Vous savez, des personnes comme moi qui vous parlent, je dois tout à Dieu. Absolument tout à Dieu. Dieu a besoin des gens qui n'ont rien aussi. Il utilise tout le monde, il utilise les gens de bonne famille, mais il utilise aussi de ceux qui viennent main vide, qui n'ont que la volonté. Alléluia. Qui n'ont que le courage. Quand on te demande chez Dieu, qu'est-ce que tu as? Il dit, Seigneur, rien. J'ai la volonté, j'ai le courage, j'ai la détermination. Alors, me voici, envoie-moi. Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau. Il lui dit même de prendre deux taureaux. Mais Dieu est dangereux. Hein? Parce que déjà, un, c'est un problème. Il dit non, tu prendras les deux. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offrande qu'il a faite là, Dieu n'a pas vu ça. Si, Dieu avait vu ça. Mais c'est comme pour dire que ce n'est pas assez. Donc, ça fera combien de taureaux? Trois. Donc, d'abord le bélier. Il a donné l'offrande hier à l'ange. Maintenant, il lui dit de maintenant qu'on deux. Et puis, lui, il n'a rien. Non, ce n'est pas grave à prendre chez ton père. Alors, vous allez voir que Gédéon n'a pas dit ça à son père. Parce qu'il y a des choses hein, qu'il ne faut pas dire. Tu prendras. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, vous allez voir qu'au verset 26, il lui dit, tu prendras le second taureau et tu feras un holocauste. Pourquoi le second taureau? Alors là, il y a deux interprétations. La première interprétation, c'est que le premier taureau, le jeune taureau qui est à son père, il semblerait que c'est un taureau qui était consacré déjà à Baal, qui était là et qu'on attendait de l'abattre. On avait déjà fait des histoires pour la prêter pour Baal. Mais tandis que le second, lui, n'était pas encore consacré à Baal. Ce qui me touche, c'est le fait que le père de Gédéon, enfant de Manassé, enfant de Joseph et enfant d'Israël, dans sa maison, il n'y a plus l'autel de Dieu. Il y a l'autel de Baal. Et c'est où que ça se trouve, l'autel de Baal? En Israël! Quel peuple de courte mémoire! Vous savez, frères et sœurs, si Dieu ne nous aide pas, nous oublions trop vite les bienfaits de Dieu. Nous oublions très vite les miracles de Dieu. Il suffit que quelqu'un te provoque et alors tu oublies tout ce que Dieu a fait pour toi. Il suffit que tu traverses une période difficile, tu oublies tout ce que Dieu a fait pour toi. Et dire que un pays comme celui-ci était un pays fortement christianisé. La preuve, c'est qu'il y a dans chaque village des églises. Chaque village. Et vous savez que l'Union européenne, dans sa constitution, a refusé qu'on ne puisse mettre mention de Dieu dans la constitution. Les Polonais ont essayé, mais n'ont pas fait. Dans cette Europe, qui a envoyé des missionnaires, qui sont morts des martyrs, est-ce que ce pays comme celui-ci qui a consacré ses fils et ses filles pour la mission, qui ont risqué leur vie. Vous savez, beaucoup de missionnaires étaient vraiment des hommes consacrés à Dieu et qui ont même refusé de retourner en Belgique et qui vivent là comme des villageois. Un pays comme celui-ci peut dire non, Dieu pour nous n'est pas nécessaire. Et oui, parce que l'homme oublie vite. La génération actuelle ne connaît pas Dieu. On est en train de se battre pour que le culte athée, comment on appelle ça? La laïcité prenne la même place que l'église. Donc les maisons de laïcité soient traitées de la même manière que les églises, par les communes, par les différents pouvoirs publics. Vous savez,
si nous n'instruisons pas nos enfants à craindre Dieu, si nous ne vivons pas dans nos maisons la vie de Dieu, de notre vivant, nous verrons nos propres enfants ou nos petits-enfants avoir aussi des hôtels de bal dans leur maison. Qu'est-ce que vous allez faire? Le jour que vous arriverez chez votre petit-fils ou votre petite-fille et vous trouvez qu'en vente de manger, on amène d'abord des bougies de Bouddha. Je ne sais pas s'il y a des bougies de Bouddha. Ah oui, oui, il y a des maisons. J'ai vu ça dans mon pays. Avant de manger le repas, on prend d'abord toute la casserole, là, on amène à l'autel des idoles. Peut-être que vous avez déjà assisté là, dans la maison de vos parents, ou de vos maris, ou de... Ah oui, oui. On amène alors, on fait des incantations, des bougies, etc. Parce qu'actuellement, ce qui est à la mode, hein, c'est les sciences orientales. Nous qui adorons Dieu, nous sommes considérés comme des troubles faits en Occident. Se dire chrétien, vous savez comment on appelle l'évangélisation maintenant. On dit le prosélytisme. Ils font du prosélytisme. Mais quand les bouddhistes, les gens des sciences orientales et les autres viennent recruter les adeptes, il n'y a pas de problème. Et beaucoup d'Européens vont maintenant en Inde, en Asie, etc., pour faire la méditation transcendantale. Ils vont suivre les chevaux, ils vont se baigner dans les rivières Gange. Là, c'est bon. Mais nous essayons de prêcher l'évangile, on dit non. Les évangiles sont en train de faire du prosélytisme. Ça, c'est l'hôtel de Baal. Et vous ne serez pas étonnés. Et c'est pourquoi nous devons vraiment prier Dieu. Et Dieu dit à Gédéon, voilà d'abord ce qui est dans la maison de ton père. Et c'est ça qui va t'empêcher de me servir. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Donc tu renverses l'autel de Baal. Tu abats le pieu sacré. Il semble que sur l'autel de Baal, il y avait une statue de la déesse Astarté. Et c'est cette statue-là qui est le pieu sacré. Vous verrez que quand on parle des prophètes de Baal, ils sont toujours couplés aux prophètes d'Astarté. Parce que Baal, c'est la divinité masculine, et Astarté, dans leur mythologie, c'est la divinité féminine, c'est la déesse. Donc, les deux marchent ensemble. Ils sont amoureux. Et Dieu dit, tu renverses l'autel de Baal et tu brises le pieu d'Astarté. C'est avec le bois de cette statue-là que tu vas faire le feu pour me donner ce sacrifice. Dieu a de l'humour, hein. Dieu veut ridiculiser les idoles. Bah, tu ne vas pas chercher le bois ailleurs.
Tu prends seulement Astarté, là. Tu casses un morceau, tu fais le feu. Et puis le sacrifice monte à moi.
Ça, c'est bien. Merci, Seigneur. Tu es bon. Pour être utilisé par Dieu, il ne faut pas qu'il y ait de mélange. Il faut abattre, il faut renverser ce qui est à Baal et à Astarté. Et alors, il faut bâtir l'autel de Dieu. Et là, tu vas offrir un holocauste. La troisième chose, au verset 26, pour la première fois, Dieu dit à Gédéon, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Dieu se veut maintenant être le Dieu de Gédéon dans un milieu idolâtre, dans une société idolâtre.
dans une famille idolâtre, Dieu veut que Gédéon sorte de l'idolâtrie et qu'il s'approprie Dieu. Alléluia. Je vous dis quelque chose. Il y a des théories qui racontent que, oh, quand ta famille est dans l'occultisme, il te faut passer par telle délivrance, etc., etc. C'est vrai. Mais, ce n'est pas cette prière-là qui est importante. Il y a un renversement intérieur qui doit se faire. Ce que Dieu recherche, c'est le cœur. Peu importe l'arrière de ta famille. Peu importe les pratiques occultes de ta famille. Si Dieu veut t'utiliser, il te fera sortir de là. Il s'identifiera à toi. Ce que ma famille a fait ne me concerne pas. À partir du moment que je suis sincère avec Dieu et que j'ai donné mon cœur à Dieu et j'ai fait de mon cœur l'autel de mon Dieu et que de mon cœur, j'offre des sacrifices de louange et d'adoration à mon Dieu. Alors ne soyez pas complexés par toutes ces choses-là. Vous savez, quand quelqu'un a ses théories, il veut trouver des terrains où il doit les bâtir, mais nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Le cas ici de Gédéon, son propre père, probablement c'est lui qui était le prêtre. Donc si vous avez vécu dans une famille où on a fait des fétiches, on vous a donné des totems, et vous avez participé à toutes sortes de rites, qui nous dit que Gédéon n'avait pas participé à des rites où on sacrifiait dans la maison de son père? Il était là, non? Mais à partir du moment que son cœur s'est tourné vers Dieu, vous savez, quand Gédéon s'est converti, moi je vais vous le dire, dans l'entretien avec l'ange, quand il a décidé d'apporter une offrande à Dieu, et qu'il a couru, qu'il a préparé, qu'il a organisé les choses, et qu'il a amené cette offrande, et que l'ange lui a dit, dépose cette offrande sur le roc, et que Gédéon a déposé, a versé tout, a consacré tout à Dieu, et que le feu est sorti de là, c'était la conversion de Gédéon. Alléluia. Il n'était plus l'adorateur de Baal. C'est pourquoi Dieu lui a dit, tu vas abattre maintenant, parce que tu as changé. Tu n'es plus de ce milieu-là. Mais il faut une véritable conversion. Pour marcher avec Dieu, pour accomplir l'œuvre de Dieu, si tu es la personne que Dieu recherche, il faut une véritable conversion. La conversion, c'est le résultat du changement qui s'opère dans le cœur. Pas à partir des faits, mais dans le cœur. Dieu devient le Dieu de Gédéon. Merci. Excusez-moi, j'ai encore un problème technique. J'ai l'impression que les gens qui font normalement une bonne pile, au moins, tion, est-ce que je voulais dire la conversion, c'est quelque chose qui touche notre cœur. Amen. Donc, l'autel dont il est question, c'est notre cœur. Parce que c'est à partir de là, comme je disais ce matin, dans l'ancien temps, ils avaient des supports matériels. C'était plus facile de voir quelqu'un bâtir un autel pour Baal ou pour Dieu. Mais de notre temps, nous n'avons pas de support. Alors, tout se passe dans le cœur. Oh, le cœur, nous ne savons pas ce qui se passe dans le cœur. Et nous avons des problèmes nous-mêmes déjà de discerner la différence entre âme et esprit, la différence entre ce qui est chair et ce qui est tout simplement psychique. On a un problème. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas le cœur, c'est quoi? On dit, non, j'ai Jésus dans mon cœur, ça veut dire où? N'est-ce pas? Est-ce que vous savez où il se trouve? On dit dans mon cœur, c'est là. C'est là ou c'est dans l'estomac? Donc, on a un problème. Mais ce qui est important, c'est que ce qui est en nous à l'intérieur soit totalement consacré à Dieu. C'est ce que Gédéon voulait. Dieu voulait que Gédéon se consacre totalement à Dieu. Et Dieu devient son Dieu au milieu de la génération idolâtre.
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob devient le Dieu des Gédéons. Ceci est très important. Ce n'est pas le Dieu des autres, le Dieu des Gédéons. Il faut qu'il soit ton Dieu.
La quatrième chose que nous voyons, c'est l'obéissance de Gédéon. Il prend 10 hommes et il fait au verset 27 ce que Dieu lui avait dit de faire. Encore une fois, ce garçon est très courageux. Dites-moi, si ses frères le trouvaient, si son père le voyait, c'est là que je disais, il est dit au verset 27, il a exécuté l'œuvre de nous. Pourquoi? Parce qu'il savait que les fanatiques de Baal, s'ils le voyaient le faire, c'était très dangereux. Si c'était les gens de la Nouvelle Jérusalem, tu allais raconter partout, j'étais avec Dieu, il m'a dit, va prendre les 2 taureaux de ton père, renverse l'autel, etc. Et alors, la nouvelle va courir. Quand tu arrives tout près de l'autel, tu trouves que la gendarmerie est déjà tout autour. Parce que c'était le Dieu national. Hein? Écoute-moi, si Dieu te dit de faire quelque chose, tu n'as pas besoin de courir à gauche, à droite pour raconter ça. Fais-le. Fais-le. Il y en a même pour se faire baptiser. Quand tu prends la décision de te faire baptiser, tu n'as pas besoin de le raconter à tout le monde. Si tu es adulte, tu es majeur, madame, même pas ton mari. Si tu sais qu'il peut t'interdire, viens te faire baptiser. Parce que c'est ton droit. La liberté de culte est un droit légal. Tu n'as pas besoin de demander l'autorisation de ton mari pour te faire baptiser. C'est un droit. Alors toi, tu vas... Alors il dit, non, aujourd'hui ne va pas, etc. Et puis, tu restes là. Mais je ne comprends pas. Notre détermination doit être que quand Dieu me parle, j'obéis et je fonce. Il a été intelligent et sage. Il l'a fait à l'insu de tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit de le faire. Alors là, ça pose un problème éthique très sérieux.
Je ne voudrais pas soulever ce problème, ça devait être un débat théologique. Est-ce que c'est permis de prendre ce qui n'est pas à moi et de l'offrir à Dieu à l'insu du propriétaire?
Ah, c'est là le problème éthique. Ah, c'est un débat théologique, n'est-ce pas? Est-ce que c'est permis? Parce que ce qui est à son père est à Gédéon. Parce qu'il y a même des sœurs qui m'ont posé le problème de leur dîme. Mon mari ne veut pas que je donne ma dîme. Je fais quoi? Alors, moi, je lui pose la question, pourquoi tu dois lui dire? C'est ton argent, c'est toi qui travailles, non? Mais, sérieusement, qui travaille? C'est toi. Mais écoutez, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas besoin de spéculer. Je travaille, je prends ma dîme, je donne à Dieu. Est-ce que mon mari doit être au courant? Ce n'est pas, it's not his business. Ouais, c'est pas son problème. Parce que s'il n'a pas la crainte de Dieu, il va te dire de ne pas donner. Et il va te faire freiner, bloquer dans tes bénédictions. Gédéon l'a fait quand son père dormait. À bon entendeur. À partir du verset 28, il y a l'agitation le matin. Toute la ville est agitée contre Gédéon. Alors je vais vous dire que si Gédéon n'avait pas préalablement le courage, il allait fuir. Mais Dieu n'a pas besoin des fuyards. Dieu a besoin des courageux qui savent résister aux attaques. Il est resté là.
Et il y a ici l'accomplissement
d'une parole des Écritures qui dit: quand Dieu agrée les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Regardez comment le papa, celui qui devait se fâcher, prend la défense de Gédéon. C'est Dieu qui l'a préparé. Verset 31. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Donc les gens sont venus le voir. Et c'est à vous de prendre parti pour Baal, et c'est à vous de venir à son secours. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Ça, il a parlé comme un noir. Je crois que les gens avaient peur de Joas. Parce que l'idole se trouvait chez lui. Hein. Parce que chez nous, quand un féticheur, vous savez, c'est un féticheur du village, et il vous pointe son doigt et il commence à faire des imprécations sur toi, faites gaffe. Il commence à intimider les gens. Si quelqu'un va parler encore, il va mourir. Et tout le monde se tait. Il dit, non, ce que Baal se défend de lui-même pour dire, je suis d'accord avec ce que mon fils a fait. Gloire au Seigneur. Parfois, nous avons peur de poser un acte de foi alors que Dieu a déjà préparé le terrain pour nous. Le problème, c'est la peur. Et ici, Gédéon, le courage a fait que Dieu a organisé bien les choses. Et enfin, au verset 34, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Donc voilà comment Dieu a procédé. D'abord, l'observation. Il a vu Gédéon en train de travailler. Ce n'était pas un travail formidable, mais il faisait un travail. Mais il faisait un travail dans des circonstances où il lui fallait du courage.
Et de la détermination.
C'était dangereux et risquant, mais il travaillait. Deuxièmement, Dieu est venu pour une interview avec Gédéon. Il a découvert dans les paroles de ce jeune homme la même détermination et le courage. Et le fait que Gédéon s'est proposé d'adorer Dieu par son offrande, Dieu a vu un jeune homme en qui il peut mettre son avenir. Alors Dieu lui dit maintenant,
tu peux commencer à agir.
Et Gédéon s'est mis à agir. Et Dieu, dès que Gédéon a fait le sacrifice, vous allez vous rendre compte que Dieu ne duplique pas toujours les mêmes choses. Quand Gédéon a apporté l'offrande, le feu est descendu du ciel. Mais quand Gédéon a obéi à Dieu, le feu n'est pas descendu du ciel. Le feu est sorti de Gédéon. Le bois, ça devait être le bois de l'idole. C'est-à-dire que vous ne devez pas attendre que tout soit miracle, signe, prodige, extraordinaire. Non, 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 non. Il y a des pas que nous-mêmes nous devons poser en tant qu'être humain devant le Seigneur.
Le miracle suivra.
Quand Gédéon a agi et a terminé, alors Dieu a vu que le gars a réussi 100% l'examen, alors il lui a revêtu son esprit. Vous allez voir que le même terme s'est utilisé dans Luc chapitre 4 quand Jésus est sorti du désert. On dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, il alla dans le désert où il passa 40 jours, dans Luc 4. Mais quand il a fini l'examen de 40 jours, en sortant, on nous dit qu'il est revêtu du Saint-Esprit. Je crois que c'est le verset 14. Jésus revêtu du Saint-Esprit. Quelle est la différence? Eh bien, être rempli du Saint-Esprit, c'est une chose. Être revêtu de l'Esprit est une autre chose. Être rempli du Saint-Esprit, c'est ce que beaucoup de pentecôtistes ont. Ils parlent en langue, ils prophétisent, ils chantent des cantiques, mais ils témoignent. Il y en a même qui rêvent, qui ont des songes, tout le temps. J'ai rêvé que ça c'est très rempli. Mais, en fait, être rempli de l'Esprit ne nous avance pas à grand-chose. Parce que je connais des gens qui parlent en langue depuis leur naissance. Et ils sont nulle part. Mais être revêtu de l'Esprit, c'est un habillement. C'est un équipement pour entreprendre quelque chose. Vous voyez, quand un boxeur monte sur le ring, il est revêtu des gants de boxe, de basket et de son short de boxe. Il n'y a qu'à le voir, Vous savez qu'il prépare, il se prépare à se battre. Il est revenu. Quand un judoka ou un karatéka se revêt de son kimono, vous allez voir. Là, vous savez qu'il est prêt. Il veut commencer soit un entraînement, un exercice ou un combat. On ne met pas son kimono pour manger ou pour chanter. On met son kimono pour se battre. Le revêtement de l'esprit, c'est pour nous permettre d'entreprendre le programme de Dieu. Voici ce que le Seigneur dit au sujet de son revêtement. Le texte que j'ai cité là, je vais le lire rapidement. Je sais que je le connais par cœur, mais c'est pas grave. Au verset 18, au verset 14 de Jean, Luc 4, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Au verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roule son livre, il le remet au serviteur, il s'assoit et il dit, aujourd'hui, cette affaire vient de s'accomplir. Donc Jésus, il est comme un kimono et quand il est sorti, le même Jésus, nous savons qu'il est né du Saint-Esprit, qu'il est rempli du Saint-Esprit toute sa vie. Mais quand il est revêtu de l'Esprit, attention, les démons qu'il croisait avant le voient, ils commencent à hurler, ils les chassent. Les malades qui viennent à sa rencontre, il les guérit. Il est sur le bateau, la mer essaie de s'agiter, il se lève, il calme la tempête. Il sort de choses, il marche sur l'eau. Il est devenu différent, il devient agissant. Il entreprend le plan et le programme de Dieu qui l'ont conduit jusqu'à la croix. Mais enseveli le troisième jour, il ressuscite des morts et il ne s'arrête pas là-bas, il monte au ciel. Alléluia. Et nous l'attendons. Gédéon est revêtu de la puissance. Pourquoi? Parce que Dieu le veut maintenant agissant. Il ne reste pas au même niveau. Il est agissant. Il entreprend. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te choisit, quand Dieu te parle, te donne des instructions, te fait passer par toutes sortes de choses. Maintenant, quand Dieu veut t'utiliser, oh, nous, pentecôtistes, être utilisés par Dieu, nous voyons seulement la prédication. Un jour, quand je devais quitter mon travail, je me rappelle toujours, un frère belge qui était missionnaire au Congo est venu chez nous à la maison. Il a dit, non. Il parlait à ma femme et à moi, il dit, je ne suis pas d'accord que vous quittiez votre travail. On dit, pourquoi? Évidemment, moi, je le trouvais très peu spirituel. Comment un missionnaire peut m'empêcher de quitter mon travail pour servir le Seigneur? Il m'a dit, ce qui est triste avec nous autres évangéliques et pentecôtistes, c'est que les meilleurs chrétiens qui devaient être un témoignage dans leur société, dans leur travail, dès qu'ils sentent un peu de flamme, un peu d'agitation, ils quittent, ils deviennent des prédicateurs. Quel jour nous allons avoir dans les entreprises de vrais chrétiens qui restent là-bas et qui accomplissent le plan et la volonté de Dieu? Dites-moi, Daniel, il était prédicateur d'où? Et pourtant, la Bible nous dit qu'il est prophète, qu'il est classé parmi les prophètes. Dieu lui a donné des visions prophétiques. Il n'était pas dans le sacerdoce, mais Dieu l'a utilisé comme homme politique. Dieu peut te oindre pour t'utiliser comme homme politique. Dieu peut te oindre pour t'utiliser comme un grand, vaillant général de guerre. Dieu peut te oindre pour t'utiliser dans les affaires, pour que tu produises beaucoup d'argent pour bâtir nos temples. Regardez par exemple là. J'ai besoin d'argent pour terminer le travail ici. S'il y avait des hommes d'affaires qui ont l'onction et qui ont le mandat de Dieu, nous n'allons pas prier pour 100 000 euros. 100 000 euros, vous savez, c'est combien? C'est rien du tout. Ça fait 4 millions de francs belges, hein. Mais c'est rien. S'il y avait des hommes d'affaires que Dieu a mandatés à Ouen pour les lancer dans les affaires et gagner l'argent, ils viendraient avec ça et diraient, terminez ça. Et c'est comme ça que ça se passe en Amérique. En Amérique et en Corée. En Amérique, il y a des gens que Dieu a Ouen. Je vous ai dit un jour, dans une assemblée générale, on nous a levé quelqu'un. On dit, cet homme, pour que cette assemblée générale ait lieu, il a donné 30 millions de dollars. Et nous, on est en train de prier 4 millions, 100 000 euros, 100 000 euros, parce qu'il n'y a pas d'onction d'affaires pour que le royaume de Dieu aille de l'avant. Et il y a un frère qui m'avait dit, oui, je m'en vais chercher le diamant, et vous savez, le royaume de Dieu a besoin d'argent. Il est allé, quand il a trouvé le diamant, il a disparu. Que Dieu bénisse son cœur. Mais nous avons besoin dans l'église de ces gens-là que Dieu va appeler et oindre. Et quand Dieu va te oindre, tu ne vas pas t'arrêter à parler en langue. Nous avons besoin des gens, non seulement qui sont remplis du Saint-Esprit, mais qui sont revêtus. Alléluia! Regardez, ce jeune homme, quand il était revêtu de l'Esprit, il est dit au verset 34 que Gédéon sonna de la trompette qu'il a établie. Est-ce qu'il y avait une nomination? Lui-même, la première personne qui a accouru, c'était Abiézer. Abiézer, c'était son clan. C'est son clan qui a reconnu que ce jeune homme a quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il a prouvé? Mais le courage qu'il a eu à détruire le statut et les holocaustes qu'il a offerts. Abiézer, ils sont venus dire, nous sommes d'accord, nous marchons avec toi. Et je suis sûr que tous ses grands frères étaient là aussi. Et son père. Et puis il a envoyé des gens dans tout Manassé. La tribu qu'il disait était la plus petite là. Ils sont autour de lui parce que maintenant qu'il est revêtu, il n'a plus peur. Il envoya des gens dans Aser, Zabulon, Nephtali et il entoure. Je vais vous dire, cet homme-là, ce jeune homme-là, moi, je le vois devant, avec sa poitrine bombée, parlant aux gens. Alléluia. Les Madianites, on va les écraser. Nous allons les bousculer dehors. Alléluia. Amen. Préparez-vous. Et les gens tournent. Ce n'est plus les histoires d'être dans une église, de chanter des cantiques, d'écouter la belle chorale. Et dans... où est Honoré? Non, non, non. Ici, hein, c'est quelque chose de pratique dans la ville. Pour la délivrance de tout un peuple. Alléluia. Et tout à coup, ce pauvre devient le numéro un. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire de toi? Dieu est en train de chercher des gens aujourd'hui qu'il va prendre. Je vous dis, Dieu n'a pas fini. Peut-être que ce sera toi. Dieu va te prendre hein, et va te faire passer une série de tests. Et il va t'élever et il va t'envoyer au devant de la scène. Alléluia. Tu vas être revêtu de ton kimono et tu t'avances. Et il est devenu le chef. Un nom qui n'était pas un nom est devenu fameux. Et vous savez comment il a dit aux gens de dire quand ils sont allés se battre contre les Madianites. Il dit, vous allez dire, pour l'Éternel et pour Gédéon. Il voulait que les gens comprennent bien que c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Que son nom aussi sorte et soit bien nommé pour l'Éternel et pour Gédéon. Un nom qui n'était pas un nom devient fameux. Tout simplement parce qu'un jour, sa rencontre avec Dieu, il a réussi. Il a réussi son test. Et Dieu l'a orienté. Il y a des choses que Dieu veut que tu fasses. Alors, il y en a qui disent, oui, en tout cas, il a eu de la chance, lui, hein, parce qu'il a rencontré Dieu. Vraiment. Est-ce que toi, tu n'as pas encore rencontré Dieu? Est-ce que tu n'as pas encore rencontré Dieu? Moi, je te pose la question. Mais vos histoires-là des pentecôtistes, j'ai reçu Jésus dans mon cœur, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est pas rencontrer Dieu, ça? Si je dis que je reçois dans mon cœur ce que je l'ai vu.
Vous avez été baptisé. Nous disons quoi le baptême?
C'est nous identifier en sa mort. Et sortir du baptême de l'eau, c'est en sa résurrection. Pour vivre comme lui. Donc, nous l'avons rencontré. Et notre examen avec lui, il est comment? Échec sur échec tout le temps. 1 Jean chapitre 5. Moi, je crois que il y a des Gédéons parmi nous. Alors, il faut exercer ça seulement. Il faut que ça change. Vous savez, le but hein, que Dieu m'a donné, hein, c'est de nous amener à changer d'abord la mentalité. Et le reste va suivre. Je vous assure, si moi ici, je n'avais pas changé de mentalité, hein, je serais toujours dans une boyerie. Vous savez ce que c'est qu'une boyerie, hein? La petite maisonnette là des domestiques, c'est là que j'ai vécu. J'ai eu, je crois, 2 enfants dans cette histoire-là. Mais quand j'ai amené les enfants, grâce à Dieu, allons partout où nous sommes passés, je vais filmer. Mais elle, heureusement, elle est née dans une belle maison. Ma femme était déjà cadre. Et je lui ai dit, si tu voyais là où nous avons vécu, tu vas fuir. On est passé par là. D'ailleurs, elle n'existe même plus, on l'a démolie. Mais il fallait d'abord changer de mentalité. Croire que Dieu peut t'utiliser. Pas toujours comme prédicateur. Il y en a trop. Il y en a trop. On n'en veut plus. Est-ce que vous m'entendez? On n'en veut plus. Écoutez, si Dieu, qui a fait tout un peuple, son peuple Israël, a choisi juste une tribu sur les 12 pour faire le sacerdoce, les autres devaient faire quoi? Les autres étaient moins juifs. Non. Alors, Dieu veut que s'élèvent aussi des gens. Qu'il va donner d'autres missions en dehors de la prédication. Et que la prédication soit là simplement pour nous changer et pour nous transformer. Je vous assure, frère, si quand j'étais jeune chrétien, j'avais reçu un prédicateur qui m'a enseigné ce que je vous enseigne ici, non, je crois que je serais déjà peut-être dans un hélicoptère. Mais c'est vrai! Nous, qu'est-ce qu'on nous a enseigné? Croyez, vous serez sauvés, préparez le ciel. Et les cantiques, c'est toujours, en ce jour-là, Jésus viendra nous enlever, etc. Et puis un jour, on s'est dit, non, la Bible n'est pas que ça. Dieu, pourquoi, quand il nous sauve, il ne nous tue pas, il nous laisse sur la terre, pour rester minables. Les païens prospèrent. Les païens, ils sont en train de faire tout. Et nous, toujours en train de chanter et de dire Alléluia. Non, ça doit finir ça. Il faut que Dieu suscite des Gédéons. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, versets 19 à 21. Voici ce qu'il dit. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malheur. Ça veut dire quoi? Au temps de Gédéon, c'était le seul qui était de Dieu. Sa famille, depuis son père, ses frères, dans la maison de son père, c'est là qu'il y avait l'idole. Et tout le pays était au diable. Mais lui seul, qui était de Dieu, il a fait la différence. Nous savons que nous sommes de Dieu. Juste le fait que tu es de Dieu, tu es appelé à faire la différence. Comment ça va venir? Je ne sais pas comment ça va venir. Mais sois déterminé, ça va venir. Tu n'as pas besoin de bousculer les choses. Tu n'as pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Mais Dieu le fera. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce qu'on peut applaudir? Écoutez-moi, Gédéon a véritablement rencontré Dieu. Et Dieu lui a donné un mandat, une mission. Et toi aussi, Dieu t'a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Non seulement connaître le véritable, mais être dans le véritable. nous sommes dans le véritable. Donc, nous ne sommes pas dans une espèce de rêverie spirituelle. Non, non, non. Nous sommes dans le réel, dans le véritable. Et il termine en disant, c'est lui qui est le Dieu véritable, c'est-à-dire Jésus-Christ et la vie éternelle. En principe, hein, tous ceux qui se sont convertis, qui sont passés, qui ont fait les leçons de nouveau convertis avec le pasteur Willy Cavengel, qui sont passés par les eaux du baptême, qui ont confessé Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, et qui sont dans le véritable en principe, il devait dire, moi je suis vraiment dans le véritable. Ça veut dire, j'ai le contact avec Dieu. C'est ça être dans le véritable. C'est être en contact avec Dieu. Hein? Voyez comment quand les Quinois arrivent à Bruxelles, ils foulent le sol, dit, je suis dans quoi là? Awande Miguel. Il dit, je suis, hein, solo, solo. C'est ça, Miguel. Tu es dans le véritable. Un jour, j'étais en Suisse, dans une maison d'un ancien bruxellaire. Il dit, pasteur, quel jour tu vas rentrer au ciel? Aucun de l'eau, là, ma colonie. Je dis, je ne comprends pas. Il dit, hey, mais où tu l'eau, là, t'es? Donc tu viens du ciel, Bruxelles. Le véritable. Être dans le véritable, et je vais m'arrêter là-bas, c'est être dans le réel. Ça veut dire que j'ai la possibilité d'entendre Dieu, d'écouter sa parole. La pratiquer m'amènera à être un géant, comme Gédéon. Je suis dans le véritable. Et c'est pourquoi il termine, il dit, petits enfants, au verset 21, et il termine comme ça, hein, son livre, brusquement. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Vous savez pourquoi? Parce que les idoles, c'est pas réel. C'est pas réel. Les idoles, c'est pas réel. Il dit, prends le pieu là, d'Astarté. Tu vas le brûler. Hein. Tu vas me faire un bon feu et tu vas offrir le sacrifice. Et le papa de Gédéon dit, ben, si Baal est Dieu, qu'il se défende, est-ce que Baal a défendu sa cause? Non, parce que les idoles ne sont pas de Dieu. Ça veut dire, écoutez bien, quand on est enfant de Dieu, on n'est pas dans l'idolâtrie, dans l'irréel. On est dans le véritable. Notre Dieu est vrai.